Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio tous les jours. Après ses consultations, évidemment, c'est de vous qu'il vient prendre soin. Le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, nous allons consacrer notre grand dossier à l'épidémie de coronavirus. On ne le fait pas tous les jours dans cette émission, mais il est important de temps en temps de faire un point sur la situation actuelle, sur le niveau de tension de notre système hospitalier. Alors pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le professeur Bruno Mégarban. Il est chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris et il nous fera part de son quotidien, à quel point les lits se remplissent de nouveau à l'hôpital, avec quel profil de patients et surtout de comment lui il voit les choses dans les semaines à venir. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous parlerons cet après-midi de l'urétrite, cette inflammation de l'urètre, petit conduit qui nous sert à uriner. Savez-vous comment elle survient, comment la reconnaître et surtout comment la soigner? Nous ferons le point enfin. Vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, on parlera de ces gens qui partagent parfois des choses intimes avec d'autres sur le plan sexuel, mais pour qui dormir avec quelqu'un d'autre est très difficile, voire impossible.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est Le Vrai Faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est celle de Maxence.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, je vous appelle aujourd'hui parce que ça fait quelques semaines que j'ai un petit problème. J'ai des saignements de nez réguliers et ça m'inquiétait parce que je voulais savoir si c'était dû au stress ou à quelque chose de plus grave. Voilà, merci.
Alors Jimmy, d'abord d'un point de vue général, quand on saigne du nez, bon, de temps en temps, peut-être pas là la question de Maxence qui lui parle de quelque chose de plus fréquent, mais quand on saigne du nez de temps en temps, c'est pas très grave, c'est à cause de quoi en général?
Alors c'est vrai que ces choses qui peuvent arriver, c'est lié au fait que dans le nez, vous avez des vaisseaux, et ces vaisseaux sont très superficiels, ils sont quasiment à fleur de peau, et donc il suffit que vous ayez le nez qui coule, le nez
des irrité, vaisseaux sanguins, hein, pas des vaisseaux spatiales.
Oui, exactement, merci de la précision. Et bien à ce moment-là, les vaisseaux peuvent se fissurer, être responsables de saignement de nez, mais on peut aussi avoir des causes lorsque vous avez un pic d'hypertension, c'est vrai un peu chez les personnes âgées, vous pouvez avoir ce saignement, ou parfois chez des patients qui vont prendre des traitements comme des anticoagulants, qui vont être parfois en surdosage, eh bien on peut se rendre compte qu'il va y avoir cet écoulement de nez qui nécessite une prise en charge.
Alors si c'est plus fréquent, comme le demande Maxence, lui il dit c'est régulier, il saigne du nez souvent, est-ce qu'il faut s'inquiéter comme le demande cet auditeur, ou est-ce que, bah, comme il le demande aussi, ça peut cacher quelque chose peut-être de plus grave?
Alors quand ça arrive une fois de façon spontanée, c'est pas très grave, en revanche lorsque c'est répété, évidemment qu'il faut consulter dans un premier temps votre médecin traitant, au moindre doute. Lorsque vous n'avez pas fait de bilan, vous faire une prise de sang pour être sûr que vous n'avez pas de problème de coagulation. Et puis si tout va bien, vous direction l'ORL, puisqu'avec sa petite caméra, il peut regarder ce qui se passe au niveau de vos vaisseaux du nez. Vous avez ce qu'on appelle une tache vasculaire qui parfois est trop visible et donc avec un espèce de bistouri, il va la cautériser pour éviter d'avoir un saignement de nouveau. Donc il faut à la fois savoir pourquoi vous avez ça et puis surtout on peut traiter pour éviter la récidive, surtout quand ça revient de façon répétée comme c'est le cas de cet auditeur.
Alors plus basiquement, on se pose parfois la question, quand quelqu'un saigne du nez face à nous, comment il faut réagir? On voit parfois dans les films, où moi j'ai vu des gens le faire, qu'il faut mettre la tête en arrière. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire ça quand
surtout
on a...
Surtout pas, ouais, pas la tête en arrière, parce que vous allez déglutir et avaler du coup les caillots de sang et vous allez finir par les vomir. En revanche, il faut dans un premier temps se moucher le nez. Ça paraît contre-intuitif, mais il faut évacuer les caillots puisqu'ils sont responsables du saignement.
Le plus de sang possible.
Ensuite, il faut
on
mettre
mouche.
La tête penchée en avant.
Donc on pince, l'inverse de ce qu'on ferait.
Exactement.
D'accord.
Là, on pince le nez avec le doigt et l'index. 10 minutes, c'est très long, 10 minutes. Il faut se chronométrer. Si ça ne marche pas, on recommence. Et vous pouvez éventuellement sucer un glaçon. Ça permet d'entraîner une vasoconstriction des vaisseaux et ça peut arrêter le saignement. Et évidemment, si ça ne s'arrête pas, direction le médecin ou les urgences.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est celle de Damien. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors voilà ma question. J'ai des douleurs dans le bras qui reviennent souvent. On m'a parlé de la sciatique du bras. Est-ce que ça existe vraiment?
Alors cet auditeur évoque la sciatique du bras. D'abord, c'est quoi si ça existe et comment ça se manifeste?
Oui, la sciatique du bras, ça existe, ça s'appelle la névralgie cervico-brachiale. Vous avez au niveau de vos vertèbres, entre la 5e vertèbre et la 8e vertèbre cervicale, des racines nerveuses dont vont sortir des nerfs qui vont irriguer ou en tout cas innerver le membre supérieur. Et lorsque vous avez une des racines qui est comprimée, eh bien vous avez une douleur qui part du cou, qui va dans l'épaule et qui va dans le bras jusqu'au bout des doigts.
Ouais, c'est par le coude, ça m'est déjà arrivé.
Et c'est la névralgie cervico-brachiale, à ne pas confondre avec une pathologie de l'épaule, par exemple. Là, c'est vraiment un trajet particulier, un peu comme lorsque vous avez une sciatique.
Et on est d'accord, ça fait très mal, hein, parce que pour ceux qui connaissent la sciatique de la jambe, au niveau du bras, ça peut être très douloureux aussi.
C'est très douloureux, invalidant, et souvent les patients consultent assez rapidement dès qu'ils ont ces symptômes.
C'est quoi la cause?
Alors la cause, il y en a plusieurs. On sait qu'après 40 ans, vous pouvez avoir de l'arthrose qui va pincer un petit peu les nerfs et donner cette décharge, exactement les mêmes causes qu'au niveau d'une sciatique. Mais vous pouvez aussi avoir une hernie, donc un peu de disque qui sort, qui va comprimer une racine nerveuse qui va donner ces douleurs. Et puis vous avez des causes inflammatoires pour lesquelles il faudra faire un examen. Et c'est l'important, c'est si jamais vous avez une névralgie cervico-brachiale, on va très facilement vous faire une IRM pour aller voir ce qui se passe, contrairement aux problèmes de dos où parfois on peut attendre un petit peu.
Et juste rapidement, Jimmy, comment ça se traite? Est-ce que ça se traite de la même façon que la sciatique de la jambe?
Quasiment. Contrairement dans la sciatique, on propose d'éviter l'immobilisation. Dans la névralgie cervico-brachiale, on vous met souvent un petit colis cervical pour laisser au repos le rachis cervical. On vous prescrit souvent des anti-inflammatoires, que ce soit sous forme de cortisone ou de vrais comprimés d'anti-inflammatoires. Et puis un peu de kiné si c'est besoin, si nécessaire. Et souvent, les douleurs mettent un peu de temps à partir. Il ne faut pas hésiter à aller voir le rhumatologue si ça ne marche pas. Dans de rares cas, on peut faire des infiltrations qui sont faits sous guidage radiologique puisqu'il y a la moelle qui est juste derrière, donc il faut qu'on fasse très attention.
Merci beaucoup Jimmy, c'est très clair. Alors si vous aussi, comme Damien qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Bruno Mégarban. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors on vous connaît dans cette émission parce qu'on a pris régulièrement de vos nouvelles dans l'émission depuis le début de l'épidémie. On vous a eu en mars quand c'était très tendu. On vous a eu aussi en juin, ça allait mieux, c'était plus calme dans votre service niveau coronavirus bien sûr. Et aujourd'hui on est le 15 septembre. Quelle est la situation précisément dans votre service de réanimation ?
Alors le service de réanimation médicale de l'hôpital Lariboisière a 18 lits. Donc aujourd'hui, ce matin même, nous avions 5 patients, dont 3 intubés ventilés, qui présentent donc des formes relativement graves de Covid-19. Donc effectivement, on a l'impression que le nombre de patients augmente.
Parce que, mais imaginons, en août, par exemple...
Fin juillet, on avait 2 patients, mais qui provenaient de la première vague épidémique, mais on n'avait aucune nouvelle infection à ce moment-là. Et depuis, on a eu en fait à traiter 17 patients, donc depuis août 2020, donc 17 nouvelles infections. Et donc actuellement, nous en avons 5, 3 donc sous ventilation artificielle. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une discrète remontée. Les choses restent évidemment à un niveau extrêmement bas encore, en comparaison bien sûr au pic que l'on a connu, où au maximum nous avons eu 56 patients intubés ventilés à l'hôpital Lariboisière.
Ah oui, quand même. Jimmy ?
Est-ce que vous savez comment ça se passe ? Peut-être vous échangez avec d'autres confrères dans d'autres hôpitaux, dans les services de réanimation. Est-ce qu'on a des indicateurs un peu plus inquiétants ou c'est un peu calme finalement partout avant peut-être la tempête ou pas ?
Alors non, on va dire qu'il y a bien une augmentation significative maintenant depuis une quinzaine de jours des admissions aux urgences et en réanimation, quasiment dans la totalité des régions et en tout cas de façon beaucoup plus précise évidemment à Marseille, à Bordeaux, mais aussi un tout petit peu en Île-de-France. Alors, à Marseille, la situation est plus critique puisque, comme vous l'avez entendu, on n'était pas loin de la saturation des lits dédiés au Covid-19. À Paris, on en est encore loin, mais effectivement, dans chaque service de réanimation, il y a 4, 5, voire 6 patients présentant une Covid-19 depuis maintenant une dizaine de jours.
Vous, c'est les patients qui sont hospitalisés, donc en réanimation, encore une fois, on ne parle pas des hospitalisations dans d'autres services, mais en réanimation, les 5 patients dont vous parliez juste avant, ils ont quel profil ? Est-ce qu'ils ressemblent Est-ce que c'est le même profil que les patients du mois de mars, du mois d'avril, qui étaient plutôt âgés, plutôt des personnes souffrant d'obésité ? C'est quoi le profil aujourd'hui ?
Alors, je peux donner un peu des statistiques un peu plus globales, parce qu'évidemment, regarder les 5 patients à Lariboisière n'a pas donné d'informations très exactes. Donc, globalement, sur l'Île-de-France, donc il s'agit essentiellement d'hommes, 85%, d'âge moyen de l'ordre de 60 ans. Et donc effectivement, ils ont pour la majorité une comorbidité au moins, c'est-à-dire un problème d'hypertension, de diabète, de surcharge pondérale, des problèmes cardiovasculaires. Il y a effectivement des patients un peu plus âgés, mais ils sont minoritaires. Mais il y a aussi un petit contingent de personnes plus jeunes, entre 20 et 40 ans, 10% à peu près, qui n'ont très, qui n'ont quasiment pas ou un niveau très faible d'antécédents médicaux.
Qui sont des personnes qui étaient en bonne santé au départ.
Ouais. Mais toutes ces personnes, tous ceux qui sont en réanimation étaient en bonne santé. Évidemment, s'ils avaient des maladies extrêmement graves, ils n'auraient pas été admis en réanimation.
Jimmy ?
Jean Castex a annoncé la baisse de la durée de l'isolement. On est passé de 14 jours à 7 jours. Est-ce que ça suffit comme annonce ? Alors, sans rentrer évidemment dans un débat politique, mais est-ce que ces mesures sont suffisantes ? Puisqu'on se rend compte que depuis le mois de juillet, les indicateurs se dégradent malgré l'obligation du masque quasiment partout. Il y a quelque chose qui cloche ?
Alors, en fait, on va dire effectivement, on peut se dire que les indicateurs épidémiologiques précoces que sont l'incidence du nombre de nouveaux cas de contamination, la positivation des dépistages augmente. Mais si on n'avait pas instauré ces mesures de distanciation sociale et de port du masque universel, les choses en seraient à un niveau bien supérieur, très probablement strictement identique à ce que l'on a connu en mars-avril 2020. Donc effectivement, ces mesures ont déjà freiné de façon considérable les choses, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas pour le moment entraîné un arrêt de la circulation du virus, parce que malheureusement, bien que beaucoup de personnes font des efforts, une certaine proportion de la population n'en fait pas suffisamment. Et effectivement, les réunions, les rassemblements privés, voire publics, en intérieur...
Vous avez été co-signataire justement dimanche dans le JDD Tribune qui dit « Il faut siffler la fin de la récré avec le docteur Jimmy Mohamed qui est ici présent. » Donc nous aussi, on a un rôle à jouer chacun individuellement.
Voilà, donc tout à fait. Ces réunions, on va dire, qui passent sous le radar, entre guillemets, on va dire essentiellement familiaux au sens élargi du terme, entre amis, eh bien malheureusement, continuer à faire propager le virus. D'où effectivement notre appel, qui avait essentiellement pour but d'alerter les gens et de leur demander d'être un peu plus attentifs dans ces circonstances.
Professeur Magarban, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Bruno Magarban. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur et chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors professeur Magarban, on a encore énormément de zones d'ombre sur ce virus, ça c'est clair, on ne sait pas tout. On en apprend encore tous les jours d'ailleurs. On l'a dit juste avant, l'isolement est passé donc des patients infectés de 14 à 7 jours. Mais est-ce qu'on a une meilleure idée réellement aujourd'hui de la durée de contagion finalement réelle quand on est infecté par ce virus ?
Oui, tout à fait. On connaît un peu mieux les choses. La contagiosité se fait essentiellement dans les 3 jours avant l'apparition des symptômes et dans les 3 à 5 jours suivant l'apparition des symptômes. Donc en tout à peu près 7 à 8 jours.
Mais ce n'est pas du 100% pour tout le monde. Il y en a qui vont être contagieux un peu plus longtemps. Et puis
tout à
d'autres,
fait. Alors on va dire à partir du 7e jour après apparition des symptômes, normalement la contagiosité serait de façon très importante. On estime que moins de 2% des patients sont contagieux. Évidemment, le risque persiste essentiellement chez les personnes qui ont fait des formes graves de Covid-19, donc à l'hôpital.
Justement, vos patients qui sont en réanimation, qui s'y sont parfois pour longtemps, ceux-là, il y en a qui, vous nous l'avez dit au mois de juillet, il y en a qui sont restés un mois et demi chez vous. Ceux-là, ils sont encore contagieux pour vous, par exemple, en réanimation ?
Non. Là aussi, le risque de contagiosité diminue très progressivement avec le temps. On reste un peu plus prudent, et c'est vrai qu'on ne lève pas l'isolement au 7e jour. Par contre, la 14e est plutôt suffisante, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, le patient étant sous nos yeux, on peut plus facilement faire des tests régulièrement et s'assurer de l'absence de contagiosité.
Jimmy ?
Là, on vit une deuxième crise, la crise des tests, puisqu'on en a, on en fait beaucoup, mais peut-être pas dans les bonnes conditions. C'était important de pouvoir prioriser les demandes et d'éviter d'avoir un peu comme au fast-food, on fait la queue et c'est premier arrivé, premier servi.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, du fait qu'on a encouragé la population à faire des tests plus facilement, on s'est retrouvé dans une situation même 1 million de tests par semaine ne permettait pas, semble-t-il, de répondre à la totalité des demandes. Effectivement, dans l'ensemble des demandes à traiter, il y en a qui sont extrêmement urgentes, car elles ont pour conséquence d'adapter un traitement ou d'isoler un patient potentiellement contagieux. À l'inverse, il y a des demandes, on va dire, plus administratives,
avant de voyager,
ou de confort, ou d'inquiétude, chez des personnes dont la probabilité d'avoir été contaminée est extrêmement faible. Bien sûr, l'idée importante, c'est de prioriser la réalisation des tests en fonction de l'urgence de la demande. Et les examens les plus urgents doivent être faits aux personnes symptomatiques, aux personnes contact de sujets porteurs du virus, et puis au personnel soignant, évidemment.
Bon, dans les faits, moi, je trouve qu'il y a autant la queue toujours devant les laboratoires, et j'ai l'impression que des personnes âgées n'arrivent pas à passer devant. Enfin, je ne sais pas si dans les faits,
oui,
Jimmy,
non, ce matin, en consultation,
c'est déjà priorisé
en visite,
réellement.
Non, un monsieur de 50 ans a au risque de complications, des symptômes de Covid après avoir été dans une salle de sport. Et attention, les salles de sport sont malgré tout des lieux à haut risque. Eh bien, pas de labo avant une semaine, et il me dit qu'il sera obligé de faire la queue durant plusieurs heures. Mais voilà,
donc on voit que c'est compliqué à mettre en place quand même dans la vraie vie. Quid des tests salivaires, justement, qui devraient arriver? Enfin, on n'arrête pas d'en parler, c'est presque c'est l'arlésienne un petit peu quand même. Ça va vraiment aider à fluidifier les choses? On en a besoin?
Alors, comme vous dites, effectivement, il y a la hiérarchisation des demandes, mais aussi il y a la meilleure disponibilité des différents types de tests qui vont en fait très probablement mieux organiser les choses. Alors, pour que tout le monde ait bien compris, il faut bien distinguer les tests en fonction de deux paramètres. Le premier, c'est où est-ce que se fait le prélèvement. Et donc, on a le choix entre la salive ou le nasopharynx, c'est-à-dire par un écouvillon que l'on met dans le fond de gorge.
Celui-là, on le connaît à peu près maintenant.
Voilà. Ouais. Et deuxièmement, il y a la méthode diagnostique. Donc, il y a les tests dits virologiques génétiques, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est la PCR. Mm-hmm. On va mettre en évidence le matériel génétique du virus, c'est-à-dire l'ARN. Et puis, il y a les tests dits antigéniques, c'est-à-dire cette fois-ci, on va mettre en évidence la présence des protéines de l'enveloppe du virus.
Et c'est plus rapide, ça?
Alors, en fait, il faut faire attention parce qu'on peut combiner le site et la méthode. Donc, il n'y en a pas un qui est associé obligatoirement à l'autre. Donc, au jour d'aujourd'hui, la technique de référence, c'est le prélèvement nasopharyngé combiné à la PCR. Mmh. Dans un avenir proche, effectivement, on pourrait avoir deux autres nouveautés, c'est-à-dire le prélèvement nasopharyngé combiné au diagnostic antigénique et le prélèvement salivaire combiné à la PCR. Et puis, bien sûr, peut-être encore plus, de façon plus éloignée, on aura le test le plus rapide, c'est-à-dire le prélèvement salivaire combiné au test antigénique. Et donc, tous ces tests permettent évidemment de faciliter les choses. Le dépistage antigénique donne un résultat en 15 minutes. Et lorsque vous faites un prélèvement salivaire, c'est moins invasif et plus agréable pour le patient.
Professeur Magarban, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques toutes petites minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Bruno Magarban. Vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors professeur, on fait un point avec vous aujourd'hui sur l'épidémie de coronavirus, l'état des lieux. Alors étant donné que l'Île-de-France et l'Est, on va dire, ont été très touchés en mars, vous le savez bien, vous étiez en première ligne, est-ce qu'on peut espérer que ce soit peut-être moins dur dans ces zones-là cet hiver et à l'inverse dans d'autres régions comme Marseille, on le dit en ce moment, hein, c'est très tendu. Est-ce que là où vraiment il n'y a pas eu forcément de première vague, est-ce que c'est là qu'on peut s'attendre à une catastrophe? J'exagère peut-être un peu, mais...
Je dirais malheureusement non. Ah. Parce qu'en fait, le premier pic épidémique a conduit à une immunité de la population générale relativement faible, de l'ordre de 5 à 6 % au niveau du pays, peut-être légèrement supérieure jusqu'à 10 % maximum dans les zones les plus touchées, c'est-à-dire dans le Grand Est et en Île-de-France.
Donc ce virus a encore beaucoup de gens à contaminer.
Exactement, ouais, c'est très largement inférieur au niveau où effectivement l'immunité collective permettrait de freiner la circulation du virus. Donc toutes les régions au jour d'aujourd'hui en France sont susceptibles de façon identique. Et en fait, le risque de développer un rebond dépend strictement de la densité de la population et du brassage des personnes.
Jimmy ?
C'est vrai qu'à Marseille, ils avaient la chloroquine. En Ile-de-France, on avait les capacités d'accueil en réanimation avec une offre de soins peut-être plus importante qu'ailleurs en France. Est-ce qu'on peut se dire que si une vraie première vague arrive à Marseille, ce serait plus compliqué à juguler puisqu'un malade Covid reste assez longtemps en réanimation, alors que nous, l'offre de soins était peut-être plus dense et plus large qu'à Marseille, même si nous, notre population est effectivement aussi un peu plus importante?
Alors, on va dire très probablement, avec ce rebond, on s'attend malgré tout à des patients qui vont venir en réanimation un tout petit peu plus graves, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, effectivement, parce qu'on n'atteindra jamais le même nombre de patients qui vont arriver brutalement sur les services de soins. Donc, la saturation des lits sera moindre. Donc, on pourra admettre en réanimation des patients plus précocement et donc mieux les prendre en charge. Et vous savez qu'on a fait des progrès.
De manière globale, déjà, de toute façon.
En termes d'adaptation de l'oxygène, du meilleur moment pour faire l'intubation. On donne de la cortisone assez précocement et ça permet de réduire le risque de décès et ça améliore l'évolution.
C'est-à-dire, professeur, on n'a pas un médicament indiqué qui va dire on va guérir à tous les coups tous les patients, mais la prise en charge globale est meilleure, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. On va dire la prise en charge est meilleure parce qu'on connaît comment les choses se font, quelles sont les complications. Notamment, par exemple, un certain nombre de patients sont décédés brutalement lors du premier épisode et on s'est rendu compte que c'était essentiellement des embolies pulmonaires, c'est-à-dire des caillots qui sont formés dans les veines des membres inférieurs et qui ont bougé. Et donc aujourd'hui, on donne plus facilement de plus fortes doses d'anticoagulation dès le départ.
Jimmy ?
D'autres pays font encore mieux que nous. L'Allemagne teste quasiment autant que nous et pourtant ont beaucoup moins de cas. Et même, on a 15 jours d'avance sur l'Espagne. Qu'est-ce qu'il faut changer là maintenant pour éviter d'arriver à une première ou une deuxième vague ? Ça, c'est une histoire de sémantique.
Alors, on va dire, ce qui est important, c'est de mieux appliquer les mesures barrières et le port du masque, notamment dans les lieux clos, d'être très prudent dans les rassemblements familiaux, amicaux, en milieu clos également, car ce sont les lieux de transmission du virus. Alors justement, ça m'amène aussi à dire que la meilleure application du port universel du masque aussi contribue à expliquer pourquoi on a des patients moins graves. Car c'est une notion maintenant qui est en train d'être développée dans la littérature médicale. Il est probable qu'en appliquant ces mesures, les contaminations se font avec des charges virales moindres.
Ah, oui.
Et donc, de ce fait, évidemment, les personnes qui sont contaminées le sont avec moins d'inoculum quantité de virus. Et donc, probablement, font des formes moins graves. Et donc, on voit bien que le port très généralisé du masque par la population, non seulement, bien sûr, protège les personnes les plus à risque, qui, évidemment...
Et si contamination il y a, c'est de moins de virus
exactement.
Avec des formes
si
moins graves.
Si contamination il y a, ça peut aboutir, ça pourrait aboutir à des formes moins graves.
Jimmy, une dernière question.
On se rend compte qu'en Mayenne, il y a eu une alerte au mois de juillet et finalement, ils ont réussi à inverser la tendance. Ça veut dire que c'est possible, on peut s'en sortir si on applique ces gestes barrières, qu'on fait attention.
Alors tout à fait, c'est possible. En fait, l'application des mesures barrières strictes par la totalité de la population, normalement, devrait strictement bloquer toute contamination. Puisqu'en fait, à l'hôpital, alors que l'on a des patients infectés à moins de 1 mètre de nous, on n'a pas été contaminé parce qu'on utilisait le masque qui permet de nous protéger. La seule nuance que je dois apporter, c'est effectivement en Mayenne, le territoire est plutôt rural, beaucoup moins dense, donc... À l'évidence,
c'était un peu plus facile à contenir qu'en ville.
Exactement, une épidémie était beaucoup plus simple à contrôler. À Marseille, à Paris, avec le brassage de la population, la densité des habitants, les choses seront beaucoup plus difficiles.
Merci beaucoup, professeur Magarban, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur l'urétrite. Savez-vous quels sont les symptômes de cette inflammation de l'urètre ? En vous disant ça, vous avez peut-être déjà identifié où se situe en tout cas ce bobo. Mais savez-vous comment ça s'attrape et surtout comment ça se soigne ? Avant de vous en dire plus, écoutons ce que vous en savez vraiment. C'est le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
Une infection, je pense.
L'urètre, déjà.
À mon avis, ça vient de l'urètre. C'est donc une inflammation de l'urètre, parce que voilà, le suffixe « it », c'est inflammation.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à utérus.
Je suppose que c'est douloureux, oui.
On peut même faire pipi du sang.
Avec peut-être une eau contaminée quand on se baigne dans un truc sale ou en ayant des rapports non protégés.
Comme pour les femmes, par exemple, je sais qu'il faut beaucoup boire de jus, par exemple de cranberry, des choses comme ça pour que ça passe.
Pour les hommes, je pense qu'ils vont chez l'urologue et... qui fait un examen en général qui n'est pas très agréable, je crois. Je pense qu'il doit introduire quelque chose dans l'urètre.
On peut prendre aussi des antibiotiques.
Bon, mais il y a quelques connaissances, des bêtises aussi, mais on va faire
le
point justement. C'est pas mal.
7 sur 10 aujourd'hui.
Ah, c'est bien. 7 sur 10 de la part du docteur Jimmy Mohamed. Jimmy qui va nous expliquer donc précisément de quoi on parle. C'est quoi l'urétrite ? Quels sont les symptômes ?
Eh bien, l'urétrite, c'est l'inflammation de l'urètre. L'urètre, c'est ce petit canal, ce conduit qui conduit l'urine de la vessie jusqu'aux méas urinaires. Et dans l'immense majorité des cas, c'est lié à une infection qui peut être soit une infection sexuellement transmissible, dans ces cas-là c'est du chlamydia ou du gonocoque, ou parfois une infection urinaire banale, et dans ces cas-là c'est pas lié à votre partenaire qui aura été voir à droite ou à gauche.
Alors justement, les symptômes, soyons vigilants parce que je crois qu'ils sont un peu différents chez l'homme et la femme, est-ce que vous pouvez nous préciser les choses ?
Oui, chez l'homme c'est assez facile, soit vous avez un gonocoque et vous avez ce qu'on appelle la chaude pisse, vous pissez des lames de rasoir, c'est extrêmement douloureux, on comprend tout de suite, ça fait très mal et on consulte très rapidement, soit vous avez un chlamydia par exemple, et dans ce cas-là vous n'avez peu ou pas de symptômes. Vous pouvez avoir une tache le matin dans votre caleçon. On dit tiens, c'est bizarre, j'ai rien fait de particulier. J'ai une tache un peu blanchâtre qui sent pas très bon.
Un peu comme écoulement, du lait, quoi,
un
en
écoulement,
fait,
hein, exactement.
Comme du lait caillé.
Comme du
c'est
lait caillé, exactement.
Dire,
il ne conviendra de surtout pas goûter.
Ah.
Parce que c'est périmé.
Pourquoi vous nous donnez des détails aussi dégoûtants ? Allez-y.
Et donc, ça, c'est chez l'homme. Et chez la femme, les symptômes passent souvent plus inaperçus. Elles n'ont pas forcément les brûlures urinaires.
Il n'y a pas le lait caillé chez la femme.
Le lait caillé. Il peut y avoir des petites pertes blanches, nauséabondes, mais dans ces cas-là, ça peut être un petit champignon. Et à ce moment-là, ça peut rester assez longtemps et on peut avoir des douleurs pelviennes, on a mal au ventre, on a des pesanteurs et dans ces cas-là, ça peut traîner, mais malgré tout, il faut consulter au moins de symptômes.
Alors, s'il y a ces symptômes-là dont vous venez de parler, s'il y a du lait caillé qu'on ne goûte pas, évidemment, on consulte, vous l'avez dit, mais d'ailleurs, on consulte qui
et, le comment... médecin, pas le boulanger.
Non, merci, mais le généraliste, un spécialiste,
non,
je ne sais pas.
Le médecin généraliste, c'est le médecin de premier recours, vous pouvez aller le voir, évidemment, et souvent les patients le font, puisque de toute façon, l'urologue a peu de place et il n'est pas là pour vous recevoir pour votre petite infection
bon,
urinaire.
Très bien. Alors,
laissons
le,
les spécialistes
le généraliste,
tranquilles.
Okay.
Et vous prescrit une analyse d'urine, souvent, ou parfois un prélèvement urétral, on vous met une espèce de coton-tige, vous savez, celui qu'on vous met dans le nez, et bien là, on vous le met dans le zizi, en fait, au niveau du méa.
Je crois qu'on préfère dans le nez encore.
On préfère dans le nez, effectivement. Ouais. Mais parfois, on est obligé d'aller chercher pour voir s'il y a des bactéries. Et après, on a un diagnostic et on est content.
Rapidement, pour terminer, la bonne nouvelle, c'est que ça soigne.
Ça soigne. On traite avec des antibiotiques en fonction de la bactérie. Parfois, on associe deux antibiotiques. Et puis, on vous dit de vous protéger, de mettre des préservatifs pendant une semaine, le temps de la contagion.
Mettre des préservatifs tout le temps, c'est bien aussi. Hein,
oui,
de toute façon.
Exactement,
hein,
vous avez raison, en toutes circonstances. Et puis surtout, de traiter aussi le ou les partenaires, puisque ça vient de quelqu'un. Et donc, forcément, il faudrait qu'elle se soigne ou il se soigne pour éviter ce cercle vicieux, ce ping-pong. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire à son ou ses partenaires qu'on a un peu la chaude pisse ou le chlamydia.
Donc, pour éviter le ping-pong, on prévient ses partenaires et on se protège. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre à l'instant dans ce studio. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour
Jimmy. Je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et que vous êtes là aujourd'hui pour répondre à la question de Sophie, que je vais vous lire tout de suite. Je côtoie un garçon depuis quelques semaines. C'est exclusivement sexuel pour l'instant. À chaque fois que nous avons fait l'amour, le soir généralement, je lui suggère de rentrer chez lui. Je refuse qu'il reste dormir. J'ai l'impression de passer pour une sauvage, mais je préfère dormir seule. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, après tout, Sophie et ce garçon, bon, ils se voient uniquement, elle le dit elle-même, hein, pour avoir des relations sexuelles, sans autre attente pour l'instant. Elle lui demande de partir systématiquement après. Vous en pensez quoi ? Parce que c'est pas parce qu'on fait juste un truc sexuel et qu'il n'y a pas d'engagement amoureux qu'on peut pas laisser dormir la personne avec soi, non ?
Oui, mais peut-être que c'est justement un engagement, c'est faire confiance, c'est pouvoir dormir sans dormir et d'être, ne plus être en contrôle et en maîtrise de la relation, puisque l'autre est chez soi. C'est partager son lit, son intimité, peut-être son enfance d'ailleurs, hein, parce que dans notre nuit se rejouent des tas de choses, nos rêveries et puis nos façons de nous endormir, de faire avec nous-mêmes dans ce temps nocturne. Donc c'est quelque chose qu'elle ne veut pas partager et ça pose évidemment la question de la confiance qu'elle a d'une façon générale dans l'homme qu'elle fait venir chez elle. Et peut-être dès lors qu'il s'agit de sexualité, elle a le sentiment peut-être d'être complètement en maîtrise, alors que quand il s'agit de s'endormir ou de risquer de se retrouver à se lever l'un contre l'autre ou à être dérangé par les bruits, les mouvements de l'autre, et bien là, les choses sont un peu plus complexes parce que l'autre est là dans son intérieur, pas seulement son intérieur sexuel, son corps, mais dans son intérieur, maison, chambre, donc une intimité qui manifestement est placée par elle au-dessus de celle de son intimité corporelle.
Jimmy ?
Je trouve bien indulgente Catherine aujourd'hui, parce que si ça avait été un homme, on aurait dit que c'est un goujat de se débarrasser d'elle après une relation sexuelle. Et comme c'est une femme, on cherche une explication.
Ouais, non, si ça avait été un homme, j'aurais dit la même chose. C'est
sûre,
elle qui aurait dit peut-être que c'était
vous,
un goujat.
Vous êtes honnête et intègre. Alors que Mélanie Gomez, à chaque fois, elle prend parti. Donc c'est vrai, mais on aurait été beaucoup plus choqués de la part d'un homme, de ce genre de comportement, alors que finalement,
oui,
vous dites
absolument.
Que ça pourrait
un homme
s'expliquer.
Qui fout une femme dehors après un rapport sexuel le soir et qu'il la laisse partir toute seule comme ça, c'est pas un goujat.
Oui, mais la même chose que Sophie. Ouais. Sophie est une goujat aussi. Elle se débarrasse de cet homme après un rapport sexuel, peu importe. Elle devrait peut-être faire un effort. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment? Est-ce que c'est si grave d'ailleurs finalement?
Non, mais en tout cas, ça pose la question, est-ce qu'on a à se consommer? On peut dire oui, bah oui, on se consomme, mais on est tous les deux d'accord pour ce genre de sujet. D'ailleurs, personne ne voudrait, il ne voudrait peut-être pas rester auprès d'elle, avoir à la câliner, à la voir, à la regarder le matin au réveil ou à partager un petit déj ou un café.
C'est vrai, oui.
Et peut-être qu'il est très content qu'elle ne
c'est
le demande
mieux
pas.
Pour lui. Hein.
Voilà. Et peut-être d'ailleurs qu'elle le remercie et le renvoie chez lui dans ses pénates parce qu'elle-même n'aimerait pas qu'il ne veuille pas rester. Alors, moi, c'est elle qui a.
Et puis, il revient à chaque fois, vu que ça fait quelques semaines. Donc, ça va.
C'est gagnant-gagnant.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est, on peut se dire que les deux ont l'air de s'y retrouver. Maintenant, ça pose vraiment cette question de cette consommation. Je trouve intéressant de se dire qu'on peut faire l'amour pour faire l'amour, de ne pas mettre d'autres enjeux, bien sûr. Mais veillons à ne pas être dans une consommation de l'autre. L'autre n'est pas un produit. L'autre n'est pas simplement son shoot. On peut aussi créer des liens, on peut prendre le temps de se regarder, parler, s'endormir dans les bras l'un de l'autre.
Elle pose la question, suis-je une sauvage ? Donc c'est qu'elle se dit peut-être que c'est pas très sympa quand même.
Oui, alors après, on a le droit d'être une sauvage aussi, hein. On a vraiment le droit. Mais où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est cet homme-là et qu'un autre prêtera à d'autres envies ? C'est vrai que c'est pas facile de partager son lit, c'est vrai que c'est pas facile de partager ses mouvements, on s'habitue à l'autre. Souvenez-vous, la première fois, Mélanie, que vous avez partagé votre lit avec celui qui est aujourd'hui votre mari. Souvenez-vous aussi, Jimmy, la première fois, vous avez dû rester la nuit entière avec votre épouse. Dans un premier temps, il a fallu partager le lit, pas bouger comme ceci, ou au contraire, vous avez bougé en écrasant l'autre. Je ne sais pas, mais c'est pas simple. Ah voilà, ça y est, je parle à des super vieux parce que bien sûr, comme tout le monde sait, vous êtes extrêmement âgés l'un et l'autre. Mais bon, le fait est que raviver un peu votre mémoire, partager un lit n'est pas l'idée est jolie, l'idée est romantique, mais n'est pas nécessairement confortable. On ne dort jamais aussi bien que tout seul en réalité.
C'est clair.
Mais une fois qu'on a partagé, qu'on a pris les codes avec l'autre, c'est bon d'être dans la douceur de la présence de l'autre.
Non, je retire le mot que j'ai dit juste avant, c'est pas bien, c'est bien de dormir à deux, Jimmy.
Ça venait du fond du cœur, ça veut donc dire que c'est presque plus intime de dormir ensemble que d'avoir des rapports sexuels ?
Je crois que pour certains, oui. De toute façon, pour certains, dormir ensemble ou dire leur amour ou dire leur tendresse est beaucoup plus intime que la sexualité. Nous sommes dans une époque où on a enlevé l'intimité à la sexualité. On parle de sexualité comme on parle de dentifrice, comme on parle de concerts auxquels on va assister, de choses que l'on consomme au quotidien. Et il y a des choses plus intimes que sont les sentiments et la nuit et le sommeil qui nous semblent être plus difficiles à partager.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Notre grand dossier du jour demain sera consacré à l'ostéoporose. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre, ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Parfaitement, car c'est
j'adore.
On est des attaquants.
Et on est des attaquants.
Je ne sais pas si on est des thèmes de l'émission.
Je sais pas si on est des winners, mais on est des attaquants en tout cas. Je ne sais pas si on marque des buts à la fin, mais en tout cas, on est attaquants.
Mais alors, eux, on a trois attaquants hors pair.
Fabuleux.
Hein. On commence par le Romain Marc-Antoine. Alors, lui, il a marqué des buts.
Ouh là là.
Surtout sur Cléopâtre. Ensuite, on a Napoléon. C'est quand même pas rien. 38 victoires sur 45 batailles.
C'est pas mal, mais je crois que le ratio de mon personnage, plus contemporain, est encore meilleur en termes de victoire, c'est Eric Cantona qui a fasciné l'Angleterre, le champion anglais. On fera un petit quiz autour de Cantona pour voir si vous connaissez un peu en foot, Stéphane.
On va bien rire tout en parlant d'histoire.
Évidemment, et nous on sera là pour rigoler avec vous. On va vous écouter évidemment avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, c'est un bon conseil, restez sur Europe 1.